Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca.
Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com.
Vous souhaitez réorienter votre carrière ou obtenir un meilleur emploi? Les employeurs sont activement à la recherche de diplômés dans nos programmes, dont retraitement des dispositifs médicaux, robotique industrielle et conception mécanique. Pour plus d'informations sur nos attestations d'études collégiales, offertes en soirée ou à temps partiel, consultez la section formation continue du cégeplevis.ca. Pour accéder rapidement à un métier qui vous convient vraiment,
CJMD 96.9.
Bienvenue dans la bulle immobilière.
Jusqu'à 16h.
La bulle, ça se perce pas facilement.
Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9.
La bulle, c'est fragile.
C'est la bulle immobilière.
Avec Jean-François Morin
et ses invités.
Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier.
Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
Ladies and gentlemen, let's go.
Vous écoutez CGMD 96.9.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin, courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison et j'ai l'honneur d'animer notre émission de radio, la bulle immobilière. Aujourd'hui, Kevin, comment ça va?
Ça va top shape comme toujours, Jeff. Toi?
Ça va super bien. Écoute, je trouve ça vraiment le fun. On a des invités cette saison-ci où ce qu'ils viennent nous parler de divers sujets ultra ouais. pertinents, ultra importants. Puis on vient creuser dans des sujets vraiment le fun. Puis aujourd'hui, on va parler de dossier de crédit. Avec un expert en dossier de crédit. Mais au-delà de ça, on vit tous des situations problématiques. Il y a une éducation qu'on doit avoir aussi avec le dossier de crédit, à savoir à quel moment payer nos cartes de crédit avant que le dossier de crédit consulte, à quel moment qu'on fait nos paiements d'hypothèque, qu'est-ce qui arrive si on est en retard, est-ce que si on a seulement une carte, pas une carte de crédit, mais un téléphone cellulaire, puis qu'on fait nos paiements tous les mois, c'est sûr qu'on va avoir un gros dossier de crédit.
Il y a énormément de mythes, puis de croyances, puis de oui-dire dans ce domaine-là. Fait que c'est le fun aujourd'hui d'avoir un expert pour nous aider à trancher ça, un vrai pro.
Pis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit Alex Temple, directeur consultant de bureau de crédit. C'est quand même assez simple, hein? Bureau de crédit, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille sur le bureau de crédit.
Exactement. Donc, d'abord, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui. On va essayer un peu d'éclairer, de débroussailler toute information concernant les dossiers de crédit. Et puis, donc, je suis à votre écoute, vos questions, et puis je vais répondre à vos questions.
Encore merci d'avoir fait la route pour vous prêter au jeu de la bulle immobilière où ce qu'on vient vous positionner à titre de professionnel, puis de répondre à nos questions aussi sur les divers mythes, justement, qu'on a parlé. Avant toute chose, vous avez un petit accent, vous provenez de la France?
Oui. Donc, j'ai grandi dans le sud de la France, pas loin de Toulouse, pour ceux qui connaissent. Et puis, j'ai fini par finir mes études sur Paris. Oui, je viens de la France. Donc, je suis ici depuis à peu près 2009. Et je dirige donc bureau de crédit depuis 2016-17. Et un sujet très, très passionnant, les dossiers de crédit.
Est-ce que c'est un sujet que vous touchiez déjà quand vous étiez en Europe ou vous examiniez quelques entreprises là-bas?
Non, alors... J'étais dans un domaine un peu différent, on va dire complémentaire. J'étais conseiller juridique pendant 20 ans. J'étais spécialiste de la fiscalité, droit commercial, droit immobilier. Et puis, j'accompagnais les entreprises lorsqu'ils avaient des contrôles fiscaux. Et puis, je négociais avec le centre des impôts. Par rapport au dossier de crédit, oui, en fait, par rapport, on va dire, à mes compagnies, on avait... Un cabinet de conseil juridique avec une section comptabilité. J'avais une agence immobilière, donc très active dans la vie. Oui. Et puis, mon épouse aussi avait 3 magasins de bijoux fantasy. Donc, j'étais vraiment impliqué dans le monde des affaires, on va dire. Et puis, c'est sûr qu'arrivé à un certain âge, on veut changer de vie. On cherche plus la qualité de vie que de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, on a quitté Paris pour la quiétude, plus de tranquillité, plus de qualité de vie. Et bien sûr, on a choisi le beau Québec, la belle province.
Est-ce que vous l'avez trouvé ici, la
quiétude? Oui, oui.
Ah, mais oui, ben, oui, ça, c'est plaisant. Là, nous autres, bon. On est dans la fleur de l'âge, jusqu'à le niveau de stress. Puis,
il n'y a pas de quiétude à la maison pour moi, puis j'aime beaucoup.
Surtout avec chacun de nos 3 enfants, fait que ça va vraiment très vite. Puis, un des points qui a été un point tournant pour vous aussi, de venir vous installer, puis de vous établir officiellement au Québec, vous disiez que c'est votre garçon qui disait « Papa, oui. Tu pars toujours ».
Alors, entre 2009 et 2016, je dirigeais le cabinet à Paris et puis je travaillais à distance. Et puis, chaque 3 mois, je partais en France pour rencontrer des clients, pour réorganiser le bureau. Et donc, mon fils, un jour, en partant, m'a dit « Papa, tu pars toujours comme avant, on ne te voit pas beaucoup ». Ça m'a brisé le cœur.
Oui.
Et là, je me suis mis à genoux en face de lui et je lui ai dit « Je te promets que c'est la dernière fois. Je suis parti et j'ai tout liquidé à un prix dérisoire parce que je voulais tout arrêter en France et commencer vraiment à travailler ici. » Donc, c'est pour ça que ça a commencé à partir de 2016 réellement.
La vie professionnelle. C'est un bel engagement. C'est maison. Puis, tu sais, vous étiez beaucoup intéressé au dossier de crédit avec Equifax, TransUnion, que c'est des entreprises que vous n'avez pas directement en Europe?
En Europe, dans certains pays, mais pas en France. C'était inconnu, c'est inconnu même à l'heure actuelle, puisque nous, notre système est basé avec la Banque centrale, la
carte
de France. Oui, carte bleue, nous, c'est ce qu'on dit pour les cartes de crédit. Donc, la Banque de France a un dossier sur chacun de nous, sur chacune des entreprises, et on est noté par A, A+, A-. Et votre propre banque, là où vous êtes aussi, ils ont un dossier sur vous. Donc, c'est plus personnel avec votre banque, et plus un peu éloigné avec la Banque de France, mais ce n'est pas du tout le même système qu'Equifax et TransUnion.
Puis au niveau de l'entreprise Bureau de crédit, c'est une entreprise qui vient donner des conseils, consulter vos dossiers de crédit, aider les gens à pouvoir comprendre, mieux établir leur dossier de crédit, puis mieux
repositionner
aussi leur position. Puis c'est les éléments qu'on va parler pendant notre entrevue au niveau du score de résilience, l'indication d'évaluation pour les prêteurs, tu sais, parce que les banques, c'est ce qu'ils vont faire. Au niveau de votre entreprise, là, c'est établi depuis quelle année? Ici, vous disiez que c'était 2009.
2016, oui. Oui, en 2009, en fait, j'avais une compagnie, disons, c'est la même compagnie, qui faisait plutôt du conseil, on va dire, pour l'installation de compagnies entre la France et le Québec, mais l'activité était très très infime puisque je me concentrais beaucoup plus sur la France. Et c'est vraiment à partir de 2016-2017 qu'on a commencé à faire du consulting pour les bureaux de crédit et assister les consommateurs dans leur démarche à améliorer leur dossier de crédit.
Ouais, c'est ça, parce que votre travail, c'est directement auprès des consommateurs. C'est pas du B2B ou c'est pas nécessairement avec les entreprises ou les banques. Ou c'est pas du...
Exact. 90% de notre clientèle, ce sont les consommateurs qui veulent améliorer leur dossier de crédit, soit parce qu'ils ont des problèmes parce que les informations ne sont pas à jour, les informations ne sont pas correctes, ils ont eu des problèmes d'identité, de fraude, et ou alors c'est parce que ce sont des gens qui ont des projets, acheter une voiture, avoir une carte de crédit, parce qu'ils ont eu des accidents de parcours,
oui.
En ayant eu une faillite, une proposition consommateur ou d'autres problèmes. Et nous les assistons, nous sommes là, je répète encore une fois, nous travaillons pour les consommateurs. Notre objectif, donc, c'est d'aider, d'assister le consommateur à atteindre le but qu'il veut atteindre. Donc, par rapport à l'immobilier, oui, on a beaucoup de clients qui viennent. Je veux acheter une maison, je veux investir. Mon dossier de crédit n'a pas l'air aussi bon que ça. Oui. Assistez-moi, donnez-moi des conseils, aidez-moi à corriger. Et c'est là où il y a tout un parcours et on y arrive toujours.
Puis ça, c'est quand même super intéressant. Puis bureau de crédit, un des points qui est vraiment important, c'est vous avez accès à la même version complète que les banquiers ont accès. Fait que, tu sais, dans un cas comme ça, ça vient pas nécessairement non plus... tu sais, on a toujours la crainte de consulter notre dossier de crédit parce qu'on va diminuer notre score de notre dossier de crédit puis on va pouvoir avoir des tâches à nos dossiers parce qu'on a consulté nos dossiers de crédit, puis les institutions financières passent aussi la remarque comme de quoi faites vous-même votre consultation, comme ça on n'aura pas de tâches ou d'indications comme de quoi que vous avez fait ça, vous avez fait une vérification, puis vous, l'interrogation au bureau de crédit vient pas affecter du tout.
Oui, alors, il faut que ce soit bien clair que le consommateur, quand il consulte son dossier de crédit, ça n'a aucune conséquence, il ne perd pas de points. Nous, par rapport à notre accès, nous sommes la seule agence dans tout le Canada à avoir directement accès aux ordinateurs d'Equifax et TransUnion, et nous avons accès au score FICO. C'est le score utilisé par les banquiers, les prêteurs privés, prêteurs hypothécaires, pour juger si le consommateur est solvable et crédible ou pas. Et quant au consommateur, quand il consulte ses dossiers de crédit à travers Equifax, TransUnion, Crédit Karma, Borrowell, c'est écrit clairement sur la première page, mais personne ne le lit. Les scores que l'on voit, c'est seulement à but éducatif. Ce n'est pas utilisé par les professionnels. Alors que nous, on a accès aux scores utilisés par les professionnels. Donc, ça fait toute une différence. Quelle est la différence entre les deux scores? C'est que en général, le score FICO, donc vu par le banquier, est plus bas que celui qui est vu par le consommateur. Et là, ça fait une grande surprise lorsque le consommateur voit des camemberts, des graphiques qui lui disent « Votre score est bon, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez avoir une carte de crédit. » Et quand il va à la banque pour demander un prêt auto, eh bien, le banquier va lui dire « Monsieur, désolé, mais nous, on a un score qui ne passe pas avec vous. »
Ouais. Et ça doit avoir énormément d'incidence que vous ayez cette approche-là ou ce lien-là, parce que dans le fond, on a la bonne cible. On est capable de travailler avec la bonne cible, parce que j'imagine que les deux doivent se suivre tout de même. Là,
c'est-à-dire, oui.
Mais au moins d'avoir directement ce que le banquier va avoir de l'autre côté pour travailler les bons éléments, les repositionner ou essayer de les rehausser. Ça vous donne un avantage très important.
Exact. Donc, nous, on a l'heure juste, le score juste vu par le banquier. Il faut savoir que le dossier de crédit auquel nous avons accès, on n'a pas le droit de donner de copie au consommateur. On a signé un contrat avec Equifax TransUnion, on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? C'est tout simplement parce qu'ils savent que dans 80% des dossiers, il y a des erreurs. Et ils ne veulent pas que les gens, les consommateurs, utilisent ces dossiers de crédit pour porter plainte contre eux. Donc, quand on fait une analyse, c'est par téléphone. On ne montre pas le dossier de crédit.
Puis, dans des situations aussi, là, au niveau de vos services offerts, vous offrez aussi une formation qui est environ 3 heures là, pour la formation. Vous expliquez étape par étape là, comment qui est fait le système, d'où part l'information, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire par rapport à nos dossiers de crédit. C'est quelque chose qui est ultra pertinent, ultra intéressant. Je vous en parle hors d'onde aussi, mais ça doit être fréquent que vous faites de l'éducation justement sur les dossiers de crédit. Ça doit être quand même une des grandes parties des mandats de votre entreprise, c'est de former les gens.
Exact. Exact. Donc, la formation est très importante puisqu'on s'est aperçu que 80%, 95% des appels que nous recevons, le consommateur n'est au courant de rien. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait même pas qui est Equifax, qui est TransUnion. Tout le monde pense que, tout le monde, beaucoup de gens pensent que ce sont des organismes gouvernementaux, que tout est gratuit, que les conseils sont gratuits, les corrections sont gratuites, alors que c'est complètement différent. Equifax et TransUnion, ce sont deux agences de recouvrement américaines et on les appelle des bureaux de crédit. C'est tout simplement parce qu'ils collectent des informations de la part de leurs membres qui sont les télécoms, les banquiers, les prêteurs privés, prêteurs hypothécaires, puis d'autres compagnies, puis les agences de collection aussi. Et à partir de ces informations, ils constituent ce qu'on appelle un dossier de crédit. À la base, pour que les gens comprennent bien ce que c'est qu'un dossier de crédit, en fait, c'est votre CV financier. Mais le CV, c'est pas vous qui le constituez, ce sont les compagnies avec qui vous faites affaire qui vont envoyer vos informations à Equifax TransUnion. Autre chose, un autre point, je pense, qui est à soulever, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une différence de score entre Equifax et TransUnion? C'est tout simple, ces deux compagnies n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils ont des membres différents. C'est un club, chacun a ses propres membres. Une banque, par exemple, on va prendre la Caisse des Jardins, peut très bien envoyer les informations de ses consommateurs, de ses clients, à Equifax ou à TransUnion. C'est la Caisse des Jardins qui décide. À quelle fréquence aussi? Ça, c'est important. Parce que, en général, ça se met à jour une fois tous les 30 jours, mais il y a des banques qui envoient une fois chaque 60 jours. Et quand vous avez des petites compagnies, on va dire une agence de collection, par exemple, n'a pas tout le temps une grosse quantité de débiteurs, eh bien, peut envoyer une fois par 30 jours, une fois par 60 jours. Donc, il va y avoir un déséquilibre parce qu'on n'a pas les mêmes membres, parce qu'on n'a pas les mêmes informations et parce que ce n'est pas la même fréquence aussi.
Puis aussi, ce n'est pas le même type de traitement à l'interne aussi, là, tu sais, les gens qui vont les utiliser. Puis au niveau des points, puis c'est quand même super important parce que moi, je me suis toujours questionné à savoir, tu sais, pourquoi Equifax n'a pas la même cote que TransUnion. Puis on s'attend toujours à ce que ça soit identique. Mon dossier de crédit est évalué par...
C'est des business, dans le fond. C'est comme vous dites, c'est des relations d'affaires qui sont pas. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une cible, c'est pas le Messie ou c'est pas Dieu ou c'est pas la SCHL si on faisait le pendant. Ouais. L'immobilier, dans le sens que c'est une business, puis elle opère avec ses défauts, ses erreurs, ses relations d'affaires, ses termes, ses échéanciers. Fait que c'est pour ça que ça diffère. Puis ça amène aussi toutes sortes de situations où il y a des correctifs à faire.
C'est ça. Alors, service, là. Juste pour information, on sait que certaines banques travaillent plus avec TransUnion et d'autres avec Equifax. Il faut savoir que dans le milieu du business, Equifax est beaucoup plus connu par les professions qui ont, on va dire, pignon sur rue, vitrine, les banquiers, les télécoms, tout ça. TransUnion travaille beaucoup plus avec des industriels là, par exemple, la banque RBC et Scotiabank travaillent beaucoup plus avec TransUnion que avec Equifax. Et pour toute information concernant les hypothèques, il faut savoir que nous, on traite des centaines de dossiers. On voit beaucoup plus les informations sur les hypothèques reportées sur TransUnion qu'Equifax. Equifax, on voit presque pas. Okay. Mais sur TransUnion, 90% des informations sont là sur les hypothèques. Okay. C'est pour ça qu'il y a une différence de score aussi.
Fait que c'est ça, ils ont leur affinité ou leur créneau de type de d'information bancaire qu'ils vont chercher, l'information de crédit.
Puis, tu sais, on effleure le sujet. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite après la pause. Si vous désirez avoir plus d'informations, c'est quand même assez simple. C'est Alex Temple pour le bureau de crédit. Mais vous désirez réécouter, nos émissions sont disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts
et... Balado Québec.
Balado Québec. Ah, Balados, excuse-moi, j'allais l'oublier. Balado Québec aussi. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause.
Station that's got you swallowing a nation. It's 96.9. DJ CD, 20 minutes of continuous music.
Dog, rock et hip-hop.
De retour à la bulle immobilière avec mon acolyte Kevin Filion de Plan de match Renault. Écoute, Kevin, bientôt, tu vas pouvoir faire une présentation d'un mercredi live avec notre équipe pour parler justement d'optimisation.
La semaine prochaine ou la semaine passée, je ne sais plus. Soit vous l'avez manqué ou manquez pas ça. Mais oui, ça va être super cool, un mercredi live. Puis j'invite évidemment tout le monde à venir. Le but des mercredis live en général, c'est d'échanger. Donc moi, le but, c'est de donner des conseils, des principes de base sur comment bien faire l'optimisation, les rénovations dans vos immeubles locatifs. Puis à partir de là, s'il y a des situations particulières ou des enjeux ou des problématiques, ça va être trippant d'échanger là-dessus. Fait que...
Puis pour pas faire de jeu de mots, tu vas nous donner le plan de match étape par étape justement pour arriver à faire une optimisation performante.
Exactement ça, de là le plan de match.
C'est vraiment cool. Puis nous, on fait aussi des mercredis live, un volet pour les investisseurs immobiliers, mais un volet aussi pour les courtiers immobiliers. C'est des volets qui sont ultra performants, c'est vraiment puissant. Un des mercredis qui s'en vient au mois de novembre, c'est qu'on va parler de comment signer des contrats de courtage à 3,5%, mais pour l'achat, non pas pour la vente. Puis c'est méconnu dans le milieu, il y a plusieurs commentaires, c'est mitigé, etc. Puis comme nous, on est une équipe qui veut révolutionner un peu le courtage immobilier, ben on réussit super bien. Puis en parlant de révolution, écoute, on connaît le dossier de crédit, il y a une aiguille genre qui vient augmenter dans le rouge, des fois dans le vert, etc. On est aujourd'hui avec Alex Tembel, du bureau de crédit, directeur consultant. Merci encore d'être présent avec nous. Puis, juste avant la pause, on a mis la table sur c'est quoi bureau de crédit. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On a parlé hors d'onde. Il y a différentes cotes. Il y a les banquiers qui vont utiliser une cote. Il y a les prêteurs auto qui vont en utiliser un autre. Tous les autres prêteurs vont avoir une autre cote pour eux. Puis, le consommateur, lui, va avoir différentes consultations.
Exact.
On avait parlé avec Desjardins qui donnait une consultation du dossier de crédit qui est pas la même qu'on va retrouver sur Equifax ou TransUnion. J'aimerais ça que vous puissiez un peu nous parler des différents types de crédits puis pourquoi que les institutions vont utiliser une cote versus une autre cote.
Oui. Alors, on va prendre des exemples bien précis. Le consommateur, lui, lorsqu'il accède à ses dossiers de crédit, Equifax et TransUnion, on va prendre l'exemple d'Equifax, et il va avoir un score de 700 points. Et ils vont lui montrer des graphiques, des camemberts. Là-dessus, ils vont lui dire « Monsieur, c'est très bien, vous avez un bon score, vous pouvez être qualifié pour acheter une voiture, une carte de crédit, et tout se passe bien. » C'est ce qu'il pense. Le lendemain, il va à la banque, et il veut effectuer un prêt auto, mais le banquier va lui dire tout simplement « Monsieur, écoutez, moi je vois pas le même score que vous, moi, je vois 650. Et pour nous, en dessous de 680, eh bien, on ne prête pas. Le consommateur ne comprend plus rien. Et là, il va demander, mais pourquoi il y a une différence? C'est parce que le banquier a accès au score FICO et Equifax, là où le consommateur va avoir accès à son dossier de crédit Equifax, eh bien, Equifax va faire un score de crédit, on va dire, fait maison. Donc, il n'aura rien à voir avec le score FICO. Mais celui du consommateur ne sert à rien. Et c'est écrit clairement sur les premières pages d'Equifax, TransUnion, Crédit Karma, Borrowell, que les scores auxquels les consommateurs ont accès, c'est juste à but éducatif. Et que le commerçant, le banquier, la société de télécom ont accès plutôt à d'autres scores. Pour le banquier, c'est le score FICO.
Puis quand vous dites FICO, comme... où ça se place par rapport au score Beacon qu'on entendait ou qu'on entend peut-être encore de temps à autre. Est-ce que c'est des comparables? C'est le même genre d'évaluation de score?
C'est pas tout à fait le même genre. FICO est beaucoup plus récent. En fait, c'est une matrice, c'est un logiciel qui calcule les scores à partir des informations collectées par Equifax et TransUnion. De plus en plus, les courtiers hypothécaires, les banques utilisent le FICO puisque c'est beaucoup plus malléable. On va dire, parce que tout ça, c'est pour bien comprendre, c'est du marketing. Donc, ils sont là pour revendre les informations des consommateurs. Et le score FICO, on va dire, qui va être beaucoup plus précis, puisqu'on pourra dire à Equifax, à travers FICO aussi, FICO, ça calcule le score, mais le commerçant, le banquier va dire, écoutez, moi, je veux... une géolocalisation précise. Je veux tous les gens qui habitent à Québec, pas Lévis, Lévis, c'est ça? Québec. Donc, parce que moi, je dis Lévis, c'est pour c'est ça. Fait. Donc, Québec, et, toutes les personnes qui ont un score de plus de 700 points. Tous les gens qui gagnent, par exemple, un salaire de 100 000 à 200 000. Et c'est par rapport à ça qu'ils vont recevoir les informations. Ils sont là pour acheter des informations. Il faut savoir que Equifax et TransUnion ne travaillent pas pour les consommateurs. Eux travaillent pour les membres. Ce sont des agences de recouvrement qui sont là pour collecter les informations et les revendre à d'autres commerçants.
Puis au niveau de la cote FICO, puis on parlait justement d'un score de résilience, les prêteurs hypothécaires peuvent avoir le score de résilience. Puis ça, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Fait qu'au-delà d'avoir une cotation au niveau de tes habitudes de paiement, parce que c'est un peu ça qu'ils veulent voir, ou de voir le portrait de ton CV financier, ils donnent un score de résilience. Puis ce score-là, qu'est-ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'ils viennent évaluer sur quatre différents points. Le premier, c'est de dire, ben écoutez, le consommateur est solide au changement économique. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant, là, comme t'es prêteur, tu vas prêter de l'argent, il y a une personne qui a un ratio d'endettement à 40 %, on peut aller à 42 %, mais est-ce qu'il est solide au changement économique? Ben oui, on va y prêter. Est-ce qu'il est non solide? Ben non, il prête pas. Fait que, tu sais, ça l'amène au-delà d'un chiffre, un indicateur complètement différent aussi. Puis par la suite, ben il y a modéré par rapport au changement, il y a sensible au changement ou très sensible au changement, qui peut faire en sorte que oui, tu peux avoir une bonne cote de crédit, mais le fait d'avoir un score de résilience FICO, ben, amène la personne qui va interpréter, parce que c'est toujours une question d'interprétation, en arrière de en arrière chiffre, du chiffre. Oui. Puis, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est des choses qu'on n'était pas connues, ça.
Oui. Alors, pour bien comprendre les informations par rapport au score de résilience, il faut aller encore plus loin. D'où ça vient? Comment est-ce qu'ils ont inventé ce score? Et par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent par rapport à ce score? Il faut savoir que, vous savez, les gouvernements, à travers donc certaines études, ça c'est très connu en Europe, mais bon, c'est aussi répandu dans le monde entier, font des études pour savoir à quel point une banque est solide financièrement ou pas. Donc, on va leur faire passer ce qu'on appelle un test de stress. Et on va regarder eh bien, leurs activités, leurs actifs, leurs passifs, et on va faire des simulations. Si le taux d'inflation monte de 2%, est-ce que la banque pourra résister ou pas? Est-ce que la banque pourra passer à travers ou pas? Et ils ont recopié le même système que les banquiers, donc le système professionnel, financier. Ils l'ont ramené aux consommateurs. Et ça, c'est sorti avec l'histoire de la COVID. Parce que vous rappelez, donc le score de résilience s'est sorti en juin 2020. C'est très récent, ça fait à peine un an et quelques mois. Et le but, c'est de savoir, donc quand il y a eu la COVID, les banquiers, vous rappelez, ont dit, si vous avez des difficultés à payer vos hypothèques, on peut reporter 6 mois de paiement à la fin de l'hypothèque, à la fin du terme. Il y a pas mal de gens qui se sont engouffrés là-dedans, qui se sont dit, ah ben, même si on a les moyens, eh bien pendant 6 mois, je ne vais pas payer, je vais mettre cet argent de côté ou je vais le dépenser et je payerai les 6 mois à la fin du terme. Gros problème. Les banquiers ont tout de suite accepté parce que le gouvernement s'est porté caution. Mais tout ça a été mis, écrit quelque part. Il y a une trace quelque part.
Puis ça a été des discussions débat, là et des débats et des débats exactement. Dans l'investissement immobilier où ce qu'il y avait plusieurs personnes étaient comme waouh, tu sais, je vais avoir un moratoire de paiement, je m'allège mes paiements pendant 6 mois, puis il y avait des gens qui étaient complètement à l'inverse de ça, puis t'es comme
attends un peu là.
Attends là parce que ça va être écrit.
C'est pas sans incidence là.
C'est ça. Donc les notes sont restées. Les banques savent qui a pu résister à ce changement économique. Donc c'est un problème financier pendant une certaine durée, et c'est là où le score FICO apparaît. Maintenant, c'est surtout les courtiers hypothécaires, les courtiers, les institutions financières pour les hypothèques qui achètent ce score-là de plus en plus. C'est pour voir, en fait, ils vont faire une simulation. Déjà, il y a un score. On est noté entre 1 et 99. Entre 1 et 49, ça va bien. Ça veut dire que vous pouvez passer à travers une situation financière difficile parce que vous avez été malade, parce que vous avez été au chômage, parce qu'il y a eu un cas de force majeure comme la Covid. Et à partir de 49 à 99, c'est pas bon. Alors le banquier, il va regarder ce score-là, mais en plus, il va faire une simulation. Si vous prenez un crédit, donc une hypothèque à 2%, ce qui est la moyenne en ce moment, ils vont dire, ben, on va faire une simulation avec 5%. Est-ce que, avec le taux d'endettement de l'investisseur, du consommateur, il pourra payer ou pas? S'il ne peut pas payer, eh bien, le banquier va être beaucoup plus, on va dire, sur ses gardes. Il ne va pas prendre de risque. Il va dire, je suis désolé. Alors que, s'il n'y avait pas ce score de résilience, il aurait pu accepter. Mais là, l'accès au crédit va être un peu plus difficile.
Mais dans le fond, c'était déjà dans le modèle bancaire avec le taux de qualification depuis des années. Sauf que là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont le tracker ou le registre le suivre. Puis juste pour être sûr de bien trancher, ce que vous dites, c'est que ceux qui ont bénéficié de reports de paiement ou qui ont rapidement accepté, même s'il n'y en avait peut-être pas essentiellement besoin, sans dire que c'est leur code de crédit typique qui a été touché, c'est leur score de résilience qui en est affecté, c'est ça?
Exact, exact.
Puis, tu sais, depuis septembre 2016, on pouvait emprunter justement à 5,34 à l'époque, qui était le taux de qualification que les institutions financières prenaient pour qualifier un prêteur pour un prêt hypothécaire. Puis, il y avait aussi l'option avant septembre 2016 qu'on pouvait prendre le taux actuel. À l'époque, il était à 3%, mais on devait prendre un terme fixe de 5 ans. Mm-hmm. Fait que dans un contexte comme ça, mais à 5,34, on pouvait s'acheter une maison de 260 000, mais avec un taux de 3% 5 ans, ben, on pouvait se permettre d'acheter une propriété à 300 000. Fait que c'est ce qui faisait en sorte qu'en septembre 2016, ils ont dit non, on n'accepte plus ces mesures-là. Maintenant, vous êtes obligé de prendre le taux de qualification qui actuellement, je pense qu'il est à 5,25. Puis ça l'oblige les gens à se qualifier à un taux supérieur à ce qu'on a au marché. Fait que tu sais, c'est une bonne nouvelle, mais on a senti que les institutions financières avec la COVID ont été très frileuses aussi de cette situation-là parce que j'ai senti, moi, que les institutions financières, ça a été les premières personnes qui ont levé la main pour dire « moratoire de paiement, il n'y a vraiment pas de souci, on va être là pour vous aider ». Puis c'est ce qui explique aussi, selon moi, les crises économiques qu'on a vécues, des taux d'intérêt à 20 % en 1980. Puis, tu sais, moi, je suis courtier immobilier, je n'en vois des propriétés qui ont été construites entre 78 puis 82, où ce que les taux hypothécaires avaient explosé. Mais les institutions financières avaient ajusté aussi leur modèle d'affaires pour dire, écoute, on va te faire un emprunt de 25 ans, paye-moi qu'est-ce que tu es capable de faire, puis qu'est-ce que tu payes pas, ben, on va le prolonger dans le temps pour faire en sorte qu'on va augmenter ta dette avec moi. Puis, tu sais, c'est un peu ce qu'il y avait fait, les institutions financières à l'époque.
Oui, et ça coûte beaucoup plus cher.
Ça coûte beaucoup plus cher, effectivement. Sauf que d'un autre côté, il y avait quand même, les institutions financières ont quand même mis des mesures pour pas avoir à reprendre les clés de millions de propriétaires, là, parce que cette situation...
Mais tu sais, en même temps, c'est le tissu économique, puis c'est correct qu'il fasse ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on n'a pas besoin,
c'est ça.
Il n'y a rien de gratuit.
C'est ça.
Fait que dans le fond, le fait de l'utiliser, évidemment, si on en a besoin, c'est probablement la meilleure chose à faire, même si notre score de résilience est affecté, parce que là, c'est notre réel score de résilience. C'est juste peut-être plusieurs investisseurs immobiliers qui se sont dit, oh, mais tu sais, j'ai un petit congé, je vais en mettre de côté, j'ai peut-être une mise de fonds pour un autre projet. Mais ça c'est s'est fait bon. Avec une tâche. On sait maintenant, dans le digital, on est partout, tout est
tracé. Tout est tracé. Là.
Tout est tracé. Exact.
Puis on parle aussi de bons dossiers de crédit, mais je pense qu'on peut avoir un bon dossier de crédit avec peu d'engagement. Par exemple, ma nièce, 18 ans, peut avoir un téléphone cellulaire, puis elle peut avoir peut-être une cote de crédit meilleure que la mienne.
Oui, elle peut avoir 800 points juste avec un téléphone, si elle paye bien, à temps. À temps, quand je dis à temps, c'est dès qu'on reçoit la facture. Pas à la date où il y a écrit qu'il faut payer au maximum. Ça, c'est très important.
Ben oui, en fait, c'est très, très important.
Très important.
C'est la première fois que je l'entends.
Oui.
Puis tu sais, moi, je pensais qu'il fallait payer avant l'échéance. Puis tu sais, moi, je me mettais mes puis tu sais, moi, je suis un gars qui aime ça, payer mes factures. C'est drôle, là, mais moi, je trippe d'aller à la boîte à mal, poigner mes factures, puis payer mes factures. Moi, je trippe à mort avec ça.
T'en veux-tu plus, Jeff?
Non. Okay, non.
Alors, là, c'est un point qui est, on va dire, crucial. C'est très important. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand vous recevez une facture, que ce soit télécom ou autre chose, payez quand vous recevez. Si Bell vous dit, vous avez reçu la facture le premier du mois, vous devez le payer pour le 20, la plupart d'entre nous, eh bien, on va faire un virement automatique ou un prélèvement automatique par Bell directement sur notre compte. On est tranquille, arrivé au 20, la facture est payée. Sauf que les ordinateurs chez Bell, à minuit pile, le 20 du mois, vont scanner tous les comptes. Si votre argent part le 20, il ne sera jamais chez Bell le 20. Il sera chez Bell le 22. Si ça tombe jour férié, jour de fête ou de week-end ou quoi que ce soit, jusqu'au 24, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, vous n'avez pas payé. Ils vont envoyer une note à Equifax TransUnion et solde, il y a le montant à payer. R1, ça veut dire que vous êtes dans les 30 jours. C'est pas bon. Il faut payer quand on reçoit la facture.
Ça, c'est quand même ultra pertinent, puis on n'avait jamais eu cette information-là.
Mais tu vois, moi,
personne ne vous le dira.
On fait une mini-consultation.
En même
là,
temps.
Mais moi je, pour ce genre de facture-là, je vais le faire, je vais avoir le réflexe de le faire 2 à 3 jours avant pour le traitement. Mais par contre, je suis pas très discipliné pour tout ce qui est visa, puis à un moment donné, j'en ai comme trop accumulé. Fait que je signe avec mon institution bancaire un paiement complet à la date de mes cartes Visa. Oui. Est-ce que dans ce cas-là aussi, ça se trouve être un peu une mauvaise pratique ou il là, faut, ça s'applique?
Écoutez, il faut garder le prélèvement ou le virement automatique au cas où on oublierait. On part en vacances, on est occupé, oui. On oublie de payer. Ça, il faut le garder en cas de.
Oui.
Mais sinon, il faut payer sa facture quand on reçoit.
Okay.
Il faut laisser un délai à votre banque le temps que ça parte de votre compte et que ça arrive sur le compte de la carte de crédit ou du fournisseur.
Puis je donne, j'aimerais ça poser un peu plus loin une question là-dessus. J'ai une carte de crédit de 5 000 $, j'ai un solde de 4 000 $. Ma facture est due pour le premier du mois, par exemple. Le dossier de crédit ou l'information de l'institution financière qui va être donnée au dossier de crédit, est-ce que eux vont consulter 7 jours avant la date d'échéance, par exemple le 25, pour dire bon ben il y avait 4 000 au 25, fait qu'au premier il doit faire ça, ou est-ce que nous on doit, par exemple, parce qu'il y a une question aussi d'utilisation sur la somme totale, tu sais, par exemple si on a juste 1 000 $ sur 5 000 versus 4 800 sur 5 000, ça n'a pas la même incidence, mais même si on paie au complet le 4 800, est-ce que c'est considéré comme de quoi qu'on s'est accoté dans notre crédit, ou on est mieux de libérer une somme avant le paiement? Je ne sais pas si vous comprenez.
Oui. Alors, un point très important, conseil gratuit pour tout le monde, faites très attention. Une carte de crédit, c'est pas un prêt. La banque ne vous fait pas de prêt. C'est un instrument financier. C'est juste un moyen de transport entre votre compte de chèque et le commerçant. C'est tout. Pour le banquier, c'est que ça. Donc, la meilleure façon d'utiliser, c'est pour avoir le maximum de points. On utilise la carte jusqu'à 30% de taux par rapport à la limite. 5 000 $ de limite, on ne dépasse pas 1 500 $. Jusqu'à 1 500 $, 30%, vous avez le maximum de points. Entre 30 et 50, vous avez beaucoup moins de points que vous gagnez. À partir de 50, vous perdez beaucoup de points. Une carte se paye tous les mois. Quand je dis se paye tous les mois, il faut savoir qu'entre le premier jour que vous avez payé, quelle que soit la date, il faut compter 21 jours, plus 1, plus 2, pas le 21 du mois. Le jour où j'ai payé le 5, je compte 21 jours qui passent. Si vous payez votre carte dans les 21 jours, il n'y a pas d'intérêt. Si vous payez le 22e jour, vous allez payer 20-30% de taux d'intérêt, mais reporté par rapport à l'année. Donc, la carte, on la paye à 100% dans les 21 jours. Et si on l'utilise, on ne dépasse pas 30%.
Fait qu'on parle de 30% en cours de terme, c'est-à-dire que c'est pas garder un solde de 30%, c'est pas garder un solde de 1 500, ça veut dire que si dans mon mois, comme Jeff dit, j'achète pour 4 000 sur mon 5 000, puis que je règle évidemment tout dans les délais raisonnables, ça reste que c'est pas la meilleure pratique avec
quelqu'un. Non, c'est pas bon. Il faut pas dépasser 1 500. C'est pour ça que...
Puis qu'est-ce qui arrive avec des paiements, tu sais, nous on a des factures qui passent qui sont 5 000 $, puis on a une limite de 5 000.
C'est pas bon.
L'objectif est d'augmenter la limite pour justement nous permettre de faire ça.
Exact. Okay. Il y a une grande discussion entre les experts. Il y en a qui disent il faut avoir une bonne limite de carte de crédit et d'autres qui
un
vont
bon
dire
ratio,
non.
Ouais.
Voilà, exactement. Alors, que ce soit clair, si on a 2 minutes, là je vais expliquer ça.
Absolument.
Que ce soit clair pour tout le monde. On va demander une limite de carte ou de plusieurs cartes par rapport à ses habitudes de consommation. Si moi, je consomme en général, j'achète pour 5 000 $, quels que soient les achats, eh bien, je vais demander une carte entre 15 et 20 000 $. D'accord ? Si je veux plus, ça peut être pour une question de sécurité. je me dis, au cas où j'ai un accident, ou au cas où j'ai un besoin urgent, ben, je vais utiliser ma carte. Tant pis pour mes points, je risque de perdre des points, mais c'est une, je vais dire, l'assurance. Sécurité, ouais. Une assurance. Alors, là où ça devient important, cette limite-là, c'est quand on veut acheter. Donc, le dossier est jugé, crédible ou pas. Ouais. Il faut demander à son courtier hypothécaire à qui vous allez présenter mon dossier de crédit. Demandez à l'institution financière, est-ce qu'ils acceptent une limite élevée ou pas ? Parce qu'il y a des gens qui viennent, ah ben moi j'ai une carte American Express, j'ai droit à 50 000 $, puis on fait les malins. Sauf que c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est au moment donc où on fait la demande d'hypothèque et la banque va juger. Il y a des banques qui vont dire, moi je prends 3% de la limite pour ouais. considérer, pour mes calculs, de taux d'endettement. Mais il y en a qui vont dire, ben non, moi je prends la totalité. Pourquoi ? Parce que vous avez la carte en main. Moi je vous fais un dossier, je vous dis, je suis d'accord pour une maison à $1 million, mais en sortant d'ici, vous pouvez aller retirer $50 000 au guichet et vous serez endetté de $50 000. Moi je ne prends pas ce risque-là. Donc il faut demander à son courtier hypothécaire, et par rapport à ça, si le courtier hypothécaire dit, la banque prend 3%, ça va. Mais si la banque dit, moi je prends les 15 000-20 000 $ de limite et je le compte dans votre taux d'endettement, votre dossier ne passera pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le téléphone, on retourne la carte, on appelle Visa, on leur dit, écoutez, je veux baisser la limite. Le maximum que je peux, juste avant que le courtier hypothécaire présente le dossier. Et là, pour faire baisser la limite, ça prend 2 minutes. Par contre, après, j'en ai besoin. Une fois que le crédit est passé, eh bien, je vais demander à ma banque de remonter la limite. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont interroger mon dossier de crédit. Je vais perdre 15 à 17 points, mais c'est pas grave, puisque ma vie n'a pas vraiment changé. Et la banque, ben, normalement, va remettre votre limite à un montant élevé.
C'est cool, moi, je trouve que c'est dynamique. Là.
Ben oui. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est une chose qu'on va réécouter ce deuxième segment-là, parce que c'est un des segments les plus importants. On n'a pas effleuré, justement, la consistance du dossier de crédit. On va revenir tout de suite après la pause pour parler de cet élément-là, parce que c'est donc important, c'est donc bien intéressant.
On a des révélations.
CJMD. Sur Facebook, CJMD 96.9.
Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière, toujours avec Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous avez un projet immobilier pour vendre ou acheter une propriété. Sachez que nos courtiers, c'est des bombes. On va réussir à vendre ou acheter votre propriété dans des délais records, mais surtout qu'il vous reste toujours le plus d'argent dans vos poches. C'est ça qu'on fait. Puis sais-tu quoi, Kevin? On essaie de redéfinir le courtage immobilier. Puis à tous les jours, les courtiers de l'équipe nous le démontrent. À tous les jours, on a des gens qui font des « wow ». Puis, on défonce des portes énormément, mais pas à titre de huissier, pas à titre
non, c'est ça. Pas chez les clients. Là,
pas chez les clients,
là.
Effectivement. On est aujourd'hui avec Alex Tembel, directeur consultant du bureau de crédit. Il y a beaucoup d'actions qui se parlent en hors d'onde, puis je vous le dis, il faut absolument pouvoir contacter M. Tembel pour avoir une formation, pour se faire éduquer au niveau du crédit. Il y a plusieurs mythes que même nous, on a, puis quand on consulte un professionnel, on fait comme, ah oui, j'étais pas au courant, ah oui.
Ben c'est ça que je disais, c'est peut-être une troisième émission, on a cette thématique-là. D'habitude, on suit quand même, moi, puis Jeff, les intervenants qui viennent. Donc, puis on en apprend encore énormément. Fait que ça, quand on dit un univers, le crédit, c'est le cas, il y en a toujours à apprendre. Fait que...
Puis, juste avant la pause, on avait parlé de comment qu'on peut avoir un bon dossier de crédit, mais peu d'engagement, puis de comprendre cette situation-là. Parce que, justement, ma nièce de 18 ans peut avoir son cellulaire, le payer à temps, etc., pour avoir une cote de crédit plus haute. Puis, vous parliez d'avoir une consistance dans le dossier de crédit. Puis, c'est quoi ça, une consistance de dossier de crédit?
Exact. Donc, on va prendre l'exemple des jeunes, justement, qui commencent dans la vie. C'est comme des expériences professionnelles. Vous ne faites que commencer. Donc, vous pouvez arriver avec des diplômes ou un apprentissage professionnel en sortant de l'école et on va vous juger sur un dossier de crédit par rapport à la façon dont vous payez vos factures. Un jeune va avoir souvent juste une facture de téléphone, par exemple, et il va le payer correctement. Ce jeune peut avoir 800 points de score. Mais ce qui compte, c'est pas que le 800. Là, le score n'a pas autant de valeur que si on prenait quelqu'un qui a 40 ans, on va dire qu'il a une dizaine de comptes sur son dossier de crédit, des comptes qui sont variés, un prêt auto, téléphone, une hypothèque, une marge de crédit, c'est pas du tout la même consistance. Donc ça n'a pas la même valeur. Ce jeune qui a 800 points va demander un crédit pour s'acheter une voiture, ils vont étudier son dossier de crédit, ça va peut-être passer, ça va peut-être pas passer. Mais si on prend la personne qui a 40 ans et qui a un très bon dossier de crédit, qui a aussi 800 points, mais avec une consistance, avec des expériences, avec, on va dire, un historique qui est important. Il a son compte de téléphone depuis 10 ans. Il a une voiture qui paye régulièrement en changeant de voiture, mais avec la même banque depuis, on va dire, 3-4 ans. Il va avoir une marge de crédit depuis 5 ans. Ça n'aura pas la même consistance, ça n'a pas la même expérience. Et ils vont regarder aussi par rapport aux revenus et le taux d'endettement. Donc, juste le score à dire, moi j'ai 800 points, je peux m'acheter ce que je veux, non. On va regarder la profession, on va regarder les revenus, les dépenses, l'historique, la variété des crédits, et c'est par rapport à ça que le banquier va juger.
Puis, tu sais, on le fait déjà un petit peu dans l'immobilier, en tout cas moi je le fais, mais j'espère que la plupart ont le réflexe aussi, mais tu sais, ta nièce de 18 ans qui arrive pour me louer un logement que je viens de rénover à 1300$, qui a peut-être un score de 800 versus une dame qui a beaucoup d'expérience dans la vie qui est peut-être par les interrogations ou tous les engagements et plus à 715, ben j'essaie de regarder justement
c'est
quoi son vécu, oui par l'âge, mais aussi par c'est quoi son vécu de crédit. Puis tu sais, je vais peut-être être beaucoup plus confortable à louer sur des gros engagements financiers à quelqu'un qui a un passé et non juste le meilleur chiffre, le meilleur score. Là.
Puis c'est important d'orienter nos décisions non juste sur un chiffre. Là. Puis ça, c'est quand même super important. Mais il y a plusieurs autres éléments qui peuvent nuire au dossier de crédit. Puis un qui m'a étonné, c'est la prison plus de 6 ans.
Oui.
Puis pour quelle raison? Parce que justement, on ne fait pas rouler de crédit en prison, généralement?
Exact. Exact. Donc, dans les cas négatifs, c'est quelqu'un qui a fait une faillite. C'est pas bon du tout. Vous êtes condamné pendant 6 ans chez Equifax, 7 ans chez TransUnion. Ça reste dans votre dossier de crédit, ça vous suit. Une proposition consommateur, une fois que vous avez été libéré, en général, on paye la dette sur 5 ans. Une fois qu'on a été libéré, ça reste encore 3 ans. Donc là, le truc, c'est de payer le plus vite possible pour que ça reste seulement 3 ans.
Mais par exemple, on fait une proposition, on a une entente de 5 ans de paiement, on réussit à payer sur la première année, mais ça reste entaché quand même chez Equifax pendant 6 ans puis chez TransUnion pendant 7 ans.
Non.
Même si la dette est payée.
Non. Une fois qu'on a payé sa dette, on est libéré, c'est plus 3 ans.
OK.
Fait que c'est l'avantage, comme il dit, de le régler au plus tôt possible.
Voilà. Okay. Voilà. Ensuite, un nouvel immigrant, nouvel arrivant au pays, ben, il est connu, il est inconnu nulle part, donc il n'a pas un bon dossier de crédit, il faut tout construire. Un jeune qui commence dans la vie, oui, avec juste une facture de télécom, il peut avoir 800 points, mais c'est pas bon. Et puis, pourquoi aussi quelqu'un qui a été en prison plus de 6 ans et quelqu'un qui était hors du pays pendant un certain temps? Eh bien, votre dossier de crédit, c'est votre CV financier. Il se passe rien. Le banquier va étudier ça à la loupe. Parce qu'il faut savoir que pour un banquier, nous sommes tous de potentiels fraudeurs. Il ne nous regarde pas comme, on va dire, un client qui est honnête, investisseur. Non. Où est-ce qu'il va essayer de me frauder? Donc, ils vont regarder comme un CV. Là, il va y avoir un vide. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez où? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de mouvement sur vos comptes? Donc, même si le monsieur ne dit pas qu'il est en prison, eh bien, il va le voir. Et c'est pas bon.
Puis c'est d'où là que les informations au niveau du dossier de crédit deviennent importantes. Il y a un pointage qui est donné, puis il y a un dossier de crédit du consommateur qui est pris sur plusieurs autres informations. Puis c'est quoi les informations qui vont être données ou regardées par rapport à tout ça?
Alors, donc, le dossier de crédit ressemble à un CV. On commence par l'identité. Là, attention à tous les consommateurs. L'identité, c'est le point, on va dire, culminant, le plus important. Il faut absolument que ce soit mis à jour et que ce soit la réalité de votre nom, prénom, pas de faute d'orthographe, attention, pas de junior ou senior qui traîne par-ci, par-là, des noms qui sont sur le registre de naissance, c'est
Baptistère,
ça qu'on dit,
ouais.
Baptistère, et il faut que ce soit fidèle. Donc l'identité est très importante, le score, bien, c'est sûr, ça prend son importance par rapport à l'expérience qu'on a, et par rapport au crédit auquel on veut accéder. Il y a les interrogations. Donc, les interrogations, c'est quand vous allez faire une demande de carte de crédit, téléphone, quoi que ce soit, le commerçant va aller voir votre dossier de crédit. C'est là où on perd 15 à 17 points. Il faut faire attention. Il faut pas faire beaucoup de demandes. Parce qu'à chaque fois, vous perdez 15, 17 points, et le banquier qui voit plusieurs interrogations, ou quand on cherche auprès des prêteurs privés ou quoi que ce soit, en fait, on a besoin d'argent, le banquier, ça le rassure pas. Il va dire, c'est quelqu'un qui est en situation difficile. Pourquoi les autres ne lui prêtent pas, alors pourquoi moi je prêterais?
Puis j'avais une situation où au niveau justement de l'interrogation, puis peut-être c'est un mythe aussi, puis à vous de me le dire si c'est un mythe, mais j'avais entendu justement, nous on est courtier immobilier, on oriente les gens sur différentes demandes, puis on leur demande justement de valider non pas leur dossier de crédit, mais l'offre de service des différentes banques, Banque Nationale, Desjardins, CIBC, etc. Puis j'avais entendu dire que s'il y avait plusieurs demandes pour une même type de demande, par exemple une hypothèque chez Desjardins, chez Banque Nationale, chez CIBC, la cote de crédit va être affectée seulement une fois, non pas par institution financière où ce que la cote de crédit va être diminuée. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas?
C'est ce qu'on croit. Alors, c'est pas une question de par catégorie. C'est une question de délai. Si le courtier hypothécaire fait ses demandes dans un délai de 15 jours, donc 10 jours ouvrables, 2 semaines, et vous, en même temps, vous faites des demandes de crédit, carte de crédit, prêt auto, si tout rentre dans les mêmes 15 jours, vous perdez une seule fois 15 à 17 points.
OK.
Donc, c'est pas une question de catégorie, que tout soit dans la même catégorie.
C'est quand on a des demandes de crédit, qu'on lance tout ça dans la même période.
All in. On prend congé.
On fait que ça.
On fait une grosse journée pour ça.
Exact.
Puis c'est important, par exemple, parce que, tu sais, ça peut arriver, par exemple, qu'on va ouvrir notre dossier chez Desjardins, puis par la suite, 10 jours plus tard, on va aller voir la Banque Nationale à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que là, lui, il va consulter 2 fois. Fait que là, on va perdre 2 fois le délai.
Exactement.
Fait que ça, c'est quand même important de le faire rapidement dans les mêmes délais. Puis, c'est des mythes qui sont importants de discuter par rapport à tout ça. Puis,
moi, j'ai une question, si tu permets, Jeff, mais dans l'identifiant, comme vous dites au départ, est-ce que c'est aussi l'adresse, nos coordonnées complètes? Parce que ça, souvent, on laisse ça dans les mains de la banque, en fait. C'est très rare qu'on change d'adresse puis qu'on prend le temps d'appeler Equifax ou
Transunion. Il faut que ce soit à jour. Absolument.
Ça, c'est pourquoi? Important de le vérifier.
Alors, un petit détail, par exemple, chez TransUnion, votre numéro de téléphone apparaît sur le dossier de crédit. Je parle toujours de la version banquier, d'accord? Vous, à la maison, vous le voyez de toute façon. Vous déposez une demande et la banque a besoin d'informations. Ce n'est pas le conseiller que vous avez en face de vous qui va vous appeler. C'est quelqu'un d'autre, un contrôleur. Si votre numéro de téléphone n'est pas à jour, qu'il n'arrive pas à vous joindre, eh bien, ils vont refuser. Et ils ne vont même pas vous dire pourquoi. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est que par rapport au numéro de téléphone. Alors, imaginez toutes les erreurs qu'il peut y avoir autour de l'adresse, du nom.
Des gens tremblés, comme vous disiez.
Exactement.
Puis, dans les cas vécus, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, ou même pas dans le vif du sujet, mais aussi sur les différentes expériences que vous avez eues, l'histoire des jumeaux,
c'est quand même
une drôle d'histoire. Là.
C'est un gros dossier qu'on a eu. C'est un monsieur d'un certain âge, 65-70 ans, on va dire, qui est venu nous voir. Écoutez, donc il est jumeau avec sa sœur, pas un frère, une sœur. Lui s'appelle Christian, sa sœur s'appelle Christiane. Elle s'est pas mariée, donc elle porte le nom de jeune fille, donc le même nom que le monsieur. Ils ont vécu, nés dans la même ville. Ils ont fait à peu près les mêmes métiers. Ils sont à la même banque. Je veux dire, tout est presque pareil. Et ce qui s'est passé, c'est que chez Equifax et TransUnion, tout était mélangé. Ils avaient tout confondu. Donc, le monsieur, il est arrivé. Écoutez, il avait des dettes. C'était les dettes à sa sœur. Elle avait des dettes qui étaient les dettes du frère. Donc, tout était mélangé. Ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que Equifax et TransUnion, il faut les convaincre que ce compte-là appartient à telle personne. Cette dette-là appartient à l'autre personne. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et c'est allé jusqu'à la commission d'accès à l'information. D'accès à l'information, c'est le tribunal où on peut amener Equifax et TransUnion parce qu'ils ne veulent pas corriger une information qui est probante, qui est actuelle, qui est mise à jour. Et eux vont tout faire pour pas corriger. vous allez tout faire pour corriger.
Puis là, vous vous rendez au tribunal pour un oui. E, là. On se comprend pour la lettre E seulement ouais. entre les deux, mais ça, c'est super intéressant. Là où vous nous amenez, vous nous avez dit en pré-entrevue que Equifax et TransUnion n'ont pas d'intérêt, sinon, exact. En fait, pas du tout à modifier les informations. Ils ne sont pas enclins. C'est pas que vous les appelez, puis en deux minutes, ils disent hey, on s'excuse pour l'accent aigu, on vous règle ça, c'est dans la minute qui suit. Là. Pourquoi, en fait, oui. ils n'ont pas cet intérêt-là à corriger leur propre dossier?
Alors, d'abord, en fait, il faut savoir que ce n'est pas Equifax et TransUnion qui. Je veux dire, les informations proviennent de leurs membres. Donc, ils ne savent pas ce qui s'est passé entre leurs membres, qui est la société de télécom ou la banque, et vous, le client. Donc, c'est la banque qui envoie l'information. Eux ne font que stocker, ne font que constituer votre dossier de crédit. Et bien sûr que Equifax TransUnion, vous savez, ce sont des compagnies qui travaillent pour leurs membres. Il y a un intérêt. Et puis, là, je vais aller plus loin. Leur intérêt, c'est que les dossiers de crédit ne soient pas aussi bons que ça. Pourquoi ? Eh bien, les banques vont vous charger plus d'intérêts. Il y a des compagnies qui vont vous demander un dépôt. Et ça, c'est, ça arrange les membres. Donc, ils vont tout faire pour ne pas corriger. Mais nous, heureusement qu'au Québec, comme je suis ancien juriste aussi, je vais utiliser des textes de loi. Et les lois protègent les consommateurs. S'il faut aller jusqu'à la commission d'accès à l'information, oui, on y va. Jusqu'à maintenant, on a ouvert des dossiers. Mais au dernier moment, Equifax TransUnion, ils corrigent les dossiers parce qu'ils ne veulent pas d'audience.
Puis c'est donc important, c'est puis précieux. C'est vraiment précieux. Puis des gens comme vous nous permettent justement de pouvoir redresser nos dossiers de crédit, de nous aider.
Ben c'est ça, on a tout intérêt à être accompagné.
Ben
on
oui.
comprend que
oui.
c'est pas nécessairement une balade dans le parc de le modifier et que ça a énormément d'impact si on le fait pas.
C'est un point qui est très important là, je veux en parler.
L'accompagnement.
Oui, l'accompagnement c'est une chose, mais quand Equifax TransUnion vous propose que vous corrigiez vous-même vos dossiers de crédit, eh bien, on le déconseille fortement. Ne le faites pas. Ne le faites. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, comme on dit. C'est tout simplement parce que, avant d'arriver à la page où il y a le formulaire, c'est un formulaire, eh bien, on vous fait accepter leurs conditions. Et dans leurs conditions, eh bien, tout est à leur avantage à eux. Vous devez accepter toutes leurs conditions. Si vous leur dites que, en leur prouvant, avec deux pièces d'identité, je m'appelle pas Jean-François Morin, mais je m'appelle François Morin. Voici deux pièces d'identité du gouvernement, officielles. Eh bien, ils vont dire, on va faire une enquête. Et, monsieur, désolé, mais vous appelez bien Jean-François et pas François Morin. Et là, bah, écoutez, vous avez déjà accepté leur réponse. Ça va être beaucoup plus compliqué pour corriger ensuite. Donc, je conseillerais fortement d'aller voir un professionnel parce qu'il connaît les lois. Il sait comment faire exactement pour changer ces informations et les corriger.
Puis, un des derniers points avant qu'on termine, puis il va falloir juste survoler, il va falloir être bref. On a parlé de dossier de crédit, mais est-ce que ça peut s'en venir avoir un dossier de crédit social aussi?
Oui. C'est déjà en cours. C'est pas fait officiellement. Écoutez, quand vous demandez en tant que chef d'entreprise qui gère un parc immobilier, oui. vous faites faire des enquêtes de prélocation, eh bien, vous-même ou bien l'agence de recouvrement ou qui que ce soit qui fait l'enquête peut aller encore plus loin. Encore plus loin que aller voir le dossier de crédit, appeler le locataire actuel, précédent, aller voir le dossier de crédit, le dossier OTAL, Régie du logement.
L'employeur,
ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, par rapport à l'âge, on sait que TikTok, c'est plutôt les jeunes, et il va donner un jugement. Il va dire, écoutez, moi, je vois sur Facebook, le jeune, apparemment, il fait la fête tous les jours, je vous le déconseille, il va faire du bruit.
Mais ça se fait déjà dans les entreprises pour le recrutement
exact,
des ressources humaines.
Exact. Alors, il faut savoir que les logiciels de crédit social sont celui qui est le plus connu a été mis en place en Allemagne et c'est eux qui l'ont vendu aux Chinois. Aujourd'hui, moi, je peux très bien vous dire que Equifax TransUnion, ce sont des mastodontes avec les dossiers de crédit auxquels nous avons accès. On dirait que ça fait partie de la préhistoire. Ils vont pas s'en tenir là. Ils préparent les logiciels pour inclure toute information des médias sociaux.
Sur les habitudes de paiement aussi, par exemple, aller les restaurants, les bars, tu sais, qu'est-ce qu'on utilise, etc.
Un conseil, faites très attention à ce que vous écrivez, faites très attention aux photos que vous mettez, parce que tout est suivi.
C'était-tu intéressant, Kevin?
C'est malade.
C'est vraiment... Écoute, j'ai des frissons quand on parle de crédit social. Ouais, là, je suis comme...
Je
suis pas prêt à aller là. Écoutez, M. Temple, c'est vraiment intéressant. On va vous recevoir définitivement pour une prochaine saison. On a beaucoup de sujets. On a effleuré seulement les sujets. On va vous contacter aussi pour faire une formation pour notre équipe parce que c'est donc important de comprendre comme il faut. Puis nous, on se donne le devoir de former nos coéquipiers, justement, pour que ça devienne des gens élites au niveau de leur gestion financière. Si on veut avoir plus d'informations, de quelle façon qu'on peut rejoindre votre bureau?
Oui, alors, sur Internet, notre site, c'est www.bureaudecrédit.ca. Notre courriel info@bureaudecrédit.ca et le téléphone 450-625-3232. Nous sommes à Sainte-Rose, à Laval. On est une société québécoise, pas américaine.
Puis ça, c'est super important. Puis on aime travailler avec les locaux.
L'achat local.
Exact. Puis je vous remercie, M. Temple, pour votre temps. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir à notre émission. Puis ça va devenir un nouveau plaisir de vous recevoir pour une nouvelle émission. Je vous souhaite de passer une belle journée, tout le monde. Ne manquez pas Zone Parallèle tout de suite après la
969FM.ca.
Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.